C'est l'heure des consommateurs.
Les supermarchés mes temples à moi.
Maintenant c'est plus pareil. Ça change, ça change.
Pour des cons alors qu'on est.
La crise, ça incite pas au remplissage de caddie.
Collège Pierre-et-Marie Curie, bonjour.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonsoir.
Madame, monsieur, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Théo.
Je suis Hannès.
Je suis Mathis. Nous sommes en direct des studios de Radio Plus à Douvrin pour une émission spéciale.
Spéciale car c'est la première émission d'ici Curie, la classe média du Collège Curie de Liévin. Et nous sommes avec vous aujourd'hui et avec Jean-Philippe pour une heure de bonne humeur.
Et comment ne pas être de bonne humeur quand on pense que dans 10 jours c'est Noël?
Vous-même, cher auditeur, vous vous êtes peut-être rué dimanche dernier dans les rayons jouets des hypermarchés pour dénicher LA figurine Star Wars pour votre petit-fils.
D'ailleurs, vous aviez déjà commencé il y a 3 semaines en craquant pour un nouveau smartphone en super promo pour le Black Friday.
Ou alors, vous êtes déjà en repérage des bons plans pour les soldes de janvier.
Vous avez coché l'une de ces cases? Alors cette émission est faite pour vous.
Car on dirait bien que vous avez les symptômes d'une bonne fièvre acheteuse.
D'après le journal Le Figaro, les Français s'apprêtent à dépenser pour Noël une moyenne de 749 euros.
Un budget stable malgré la crise et pour lequel nous sommes toujours prêts à faire chauffer la carte bleue.
Au cours de l'émission, vous découvrirez les habitudes des consommateurs et des points de vue de pros sur la surconsommation.
Nous nous demanderons également si les publicités influencent notre comportement et si cette envie d'acheter est spécifique au XXe siècle.
Restez à l'écoute. En seconde partie d'émission, nous essaierons de proposer des remèdes à cette fièvre acheteuse. Nos invités en plateau nous diront comment consommer moins, mieux, autrement.
Vous pouvez réagir en direct pendant l'émission via Twitter avec le hashtag Conso. C-O-N-S-O.
Société de consommation, la fièvre acheteuse, c'est l'heure des consommateurs et c'est tout de suite sur Radio Plus.
Il y a quelques jours, nous avons entendu le micro d'Issy Curie à la sortie des caisses de l'hypermarché Carrefour, à Liévin. C'était un mardi après-midi et c'était plutôt calme.
J'habite pas du tout le secteur et je sors de Réunion tous les mardis matins et donc je fais toujours un petit passage au Carrefour avant de repartir à la maison en fait.
Bah, vous savez, il y a du monde, oui et non, ça revient au même. Il y a moins de monde, mais il y a moins de caisses. J'aimerais mieux le matin, mais le matin, je vais avoir 84 ans dans 4 mois. Alors avant que je puisse partir, il est déjà 11h et puis il retourne, vous voyez. J'ai travaillé dans le commerce, donc je m'y suis habitué à toutes les situations. Tous les mardis, c'est sûr, parce qu'il n'y a que le mardi qu'on a 3 euros à partir de 60 euros à la caisse avec la carte passe.
Ma carte passe me permet, c'est un moyen de paiement même hors Carrefour, je l'utilise partout en fait, j'ai pas de carte bleue. J'ai arrêté chez mon banquier, j'utilise celle de Carrefour puisque je la paye, elle me permet de payer partout et elle me permet de cumuler cagnotte fidélité que je peux réutiliser pour mes prochaines courses.
J'ai eu 7 euros sur ma carte, la carte fidélité, ouais.
C'est de l'argent que je peux réutiliser, voilà.
Par exemple, Carrefour, par rapport à Courant, tout ça, ils sont beaucoup à regarder par rapport au prix, à baisser de quelques centimes. Par rapport aux concurrents, quoi. Et avant, ça se faisait pas, ça. Mais maintenant, je vois qu'ils jouent là-dessus.
Est-ce que vous avez acheté quelque chose qui n'était pas prévu?
Qu'est-ce que j'ai acheté?
Le Nutella, tout ça pour le pochoir.
Voilà, tout des... Voilà. Pour le pochoir. Vous savez, il y a le petit tampon pour faire les petits sablés avec ma fille, donc je l'ai acheté pour ça.
À la base, c'était pour les calendriers de Noël. Et puis, en fait, en passant dans le rayon, je me suis aperçu que voilà, il manquait ça, ça, ça. Donc forcément, on repart toujours avec plus que ce qu'on devait.
Oui, j'ai acheté... J'ai dit, tiens, je vais goûter un cake au citron. Je peux bien me payer ça. On ne voyage plus, on ne va plus au cinéma.
On va être tenté.
Parce qu'on n'achète jamais ce qu'on a prévu d'acheter. Enfin, sauf moi, mais...
Mais moi non.
Ça fait beaucoup trop, hein. On ne fait pas attention, on jette beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'économies qui sont faites.
Hein. Je consomme moins quand je prends au drive, parce que je prends vraiment ce que j'ai besoin, parce que par contre, là, quand j'étais là, les trucs qui ne sont pas nécessaires, je les ai pris quand même, quoi, je veux dire.
Non, là, disons que là, par rapport à la litière, par exemple, je prends de la litière végétale, parce que c'est quand même mieux pour eux, quoi, que des trucs chimiques, comme au niveau de l'alimentation. Après, toujours la même alimentation pour un chat ou pour un humain, bon, au bout d'un moment... Mais sinon, généralement, je fais mes courses plus dans les petits magasins que les petites boutiques. Tout ce qui est viande, les boucheries directement, ou les légumes directement aux producteurs, ce genre de choses. Quoi. Sur le marché, par exemple, je vais faire beaucoup mes courses au marché le mercredi matin, ici à Liévin. Bon, les légumes, c'est déjà meilleur et moins cher. Et puis au moins on sait ce qu'on mange aussi, quoi. Ouais, c'est primordial, hein. Faut être en bonne santé, donc à ce niveau-là. Ouais.
Puis comme je travaille plus, donc je dois marcher beaucoup, donc je préfère aller chez les petits commerçants que dans les hypermarchés ou supermarchés.
C'est meilleur pour la santé. Exactement. C'est meilleur pour votre porte-monnaie.
Exactement. En plus, comme je vais arrêter de fumer, alors vaut mieux que je marche.
On est bizarre quand même, nous, les consommateurs. On trouve qu'il y a trop de monde ou pas assez de caisses, qu'on achète trop et des produits dont on n'a pas besoin, que c'est moins cher ailleurs, qu'on préfère les petits commerces, le marché et les légumes du petit producteur. Et pourtant, on vous a tous croisé sortant d'un hypermarché. On sait que ce n'est pas l'idéal, qu'il faudrait peut-être acheter autrement, mais on reste fidèle au grand magasin.
Comme ça nous a intrigués, on est allé vérifier ailleurs, à quelques centaines de mètres de là, au magasin Lidl.
Pourquoi préférez-vous aller chez Lidl au lieu d'aller chez d'autres enseignes comme Carrefour ?
J'habite en face.
C'est plus pratique pour moi, c'est comme ça à côté de la maison.
Bah, c'est parce que c'est moins cher.
Je préfère un plus petit magasin pour aller plus vite parce que j'ai pas beaucoup le temps. Donc.
Pourquoi ? Parce que toujours bonne qualité des produits et très bon accueil.
Parce que c'est moins cher.
Niveau tarif, il n'y a pas photo et les produits sont identiques. Donc pourquoi profiter de la société qui nous taxe, autant aller à l'économie.
Non, je compare par rapport au caddie. Vous allez chez Carrefour, vous prenez pour 100 euros, votre caddie est à moitié plein. Vous venez chez Lidl, vous repartez, le caddie, il déborde. Voilà. Puis je trouve que c'est la même chose, quoi. C'est juste l'emballage qui change. Hein,
Le fait que les produits ne soient pas mis en valeur ou ne sont pas sortis de leur emballage vous gêne ?
Ouais, parce qu'on aime bien quand même regarder de plus près par rapport à la couleur. Tout, bah, on est des femmes quand même, donc on aime bien que ce soit un petit peu design.
Bah, on peut remarquer que le phénomène maintenant chez Lidl, c'est de moins en moins. Auparavant, peut-être à l'ouverture de la grande marque, c'était comme ça, mais maintenant, on voit bien qu'il y a, un gros effort quand même au niveau des rayons. C'est de plus en plus copié sur les grandes surfaces. Hein.
Je pense que les gens d'Lidl ont beaucoup de travail, donc on peut tout au moins essayer de les aider un peu, de servir dans les cartons. Ça pose pas de problème.
J'aime bien voir ce que j'achète.
Comment organisez-vous votre liste de courses en fonction des promos, de vos envies, de vos besoins ou pas de liste ?
C'est selon les besoins.
De mes besoins et des promos.
Bon, essentiellement les besoins, on programme les menus à la semaine, donc c'est une question d'organisation.
Des envies plutôt, ou tout simplement un vieux truc à la maison, et celui-là il est plus beau, donc on le remplace.
Que vous êtes d'accord avec le fait que Lidl soit l'enseigne préférée des Français ?
J'ignorais, je ne sais pas, j'ignorais que c'était l'enseigne préférée des Français.
Bah oui, forcément.
Pourquoi ?
Bah j'y travaille, et je trouve que c'est un bon magasin.
Si pour certains, c'est une démarche de militant, on se rend compte que les clients qui vont à Lidl d'abord pour les prix bas ont quand même du mal à n'acheter que par besoin. Un produit plus neuf ou la perspective d'avoir un caddie plein à ras-bord restent aussi des motivations importantes.
Vous êtes toujours dans l'émission L'heure des consommateurs avec le collège Marie Curie de Liévin. Alors n'oubliez pas, pour réagir, vous avez le hashtag conso, C-O-N-S-O sur le Twitter, pour Radio Plus. Il y a déjà un premier hashtag de Marie, répondez aux questions des jeunes du collège de Marie Curie de Liévin. Bah oui, on espère que nos invités vont y répondre. Alors, on l'a vu dans le micro-trottoir, les gens restent fidèles aux hypermarchés pour mieux comprendre comment fonctionne cette grosse machine. Antoine et Mathis ont rencontré Monsieur Bourouga, le chef de secteur alimentaire de l'hypermarché Carrefour Liévin.
Bonjour Monsieur Bourouga, pouvez-vous nous présenter brièvement Carrefour Liévin, date de création, nombre de salariés ?
Le magasin de Liévin en fait, a été créé en 1974 et nous comptons à peu près 323 salariés. Sur une semaine normale, on a à peu près entre 5000 et 7000 clients.
Comment et combien de temps à l'avance se prévèrent les événements du calendrier rentrée scolaire, Halloween, Black Friday ou Noël ?
Alors tout dépend des événements. Donc là par exemple, vous m'avez cité la rentrée des classes. La rentrée des classes se prépare à peu près 9 à 10 mois en avance. Donc là on va bientôt commencer les engagements en rentrée des classes. Après tout ce qui est Halloween, Black Friday, ça c'est plutôt, il faut compter 2 à 3 mois à l'avance. Généralement tous nos catalogues sont engagés à peu près 3 mois à l'avance. Oui, il faut vraiment anticiper notre commerce, il faut prévoir. On est tout le temps en décalage. Comme je vous dis, aujourd'hui, moi j'ai par exemple mon manager rayon épicerie qui engage les chocolats de Pâques. Actuellement, ils ont fait la réunion la semaine dernière pour les chocolats de Pâques, alors qu'on n'a pas encore débuté Noël. Mais on est obligé, parce qu'il faut, voilà, il y a tellement d'événements qui se passent dans l'année que même pour nos fournisseurs, il faut qu'eux aussi puissent anticiper leur production. Après, chaque secteur a un événement. Si je vous cite, chaque mois, on a quelque chose. Et par moment, dans un mois, il peut y avoir 2-3 événements qui chevauchent. Un hyper, sa vie, le commerce, il faut tout le temps renouveler le commerce, tout le temps proposer des choses aux clients pour qu'ils puissent aussi revenir chez nous. Ça, c'est aussi le but pour qu'ils reviennent chez nous, donner des catalogues attractifs, etc.
De nouveaux concepts de magasins apparaissent régulièrement, hard discount, bio, équitable, etc. Pour Carrefour, rester attractif, c'est devoir s'adapter en permanence à l'évolution de la société et à la concurrence.
On disait chez Carrefour qu'on avait le quart d'heure d'avance. Donc vraiment anticiper, voir comment va évoluer le commerce et la façon de consommer nos clients hein, qui évolue rapidement. On repère ce qu'il y a autour de nous. Donc, par exemple, ici à Carrefour les Vins, on a un magasin bio, Naturéo, qui est ouvert. Avant même qu'il ouvre, on a agrandi notre rayon bio. Donc notre rayon bio au départ était dans le fond du magasin sur une allée. Aujourd'hui, on a créé deux allées, on a rajouté du vrac bio pour pouvoir s'adapter à ce nouveau marché et puis attirer des nouveaux clients. Donc, ensuite, on a aussi agrandi, on a fait une zone halal de tout ce qui est produit halal, produit du Maghreb, parce qu'on a quand même aussi une population musulmane sur les vins qui, eux, consomment du halal, qui demandent du halal. Après, ça, on l'avait un peu avant, mais on l'a encore un peu plus développé, c'est les produits polonais. On a aussi une communauté d'origine polonaise dans la région. On voit aussi qu'on a beaucoup de hard discount autour, style Aldi, Lidl. Là, on a une grande zone qui a été créée depuis quelques années sur Liévin, qui est parmi les premières zones de France. C'est une zone qu'on appelle Course Éco, donc c'est des produits à petit prix. Parce qu'on sait que sur Liévin, il y a aussi des gens qui ont un budget moins élevé que d'autres. Et donc, du coup, cette zone-là est très importante dans notre magasin. Donc là, voilà, par rapport au profil de notre clientèle et par rapport à l'évolution du marché, on a adapté tout ça et on a créé ces univers-là dans le magasin.
Les clients passent moins de temps dans les magasins, consomment autrement, via Internet par exemple. Quel service propose Carrefour pour répondre aux besoins de ses clients?
C'est tout ce qui a trait à commandes sur Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Donc là, on sait très bien que là-dessus, on appelle ça l'omnicanal. Donc Carrefour y va progressivement, mais là, on veut vraiment enclencher la vitesse supérieure et surtout notamment sur le drive. Donc le drive, on sait très bien que c'est l'avenir. Les gens veulent passer de moins en moins de temps à faire leurs courses. Après, Carrefour aussi a racheté Rue du Commerce, donc le site Rue du Commerce, là aussi où nos clients peuvent faire leurs courses sur Rue du Commerce, commander sur Rue du Commerce et venir chercher leurs produits en magasin.
Depuis la loi anti-gaspillage du 3 février 2016, comment sont gérés les invendus dans le magasin et avez-vous mis en place une convention avec une association?
Effectivement, chez Carrefour, on met un point d'ordre à lutter contre la démarque. Donc tout ce qui est gaspillage, on peut aussi avoir des produits qui sont en date courte, hein, qui arrivent bientôt en date de péremption, et bien, au lieu de les jeter, Carrefour a signé une convention, notamment notre magasin ici, avec deux associations, les Restos du Cœur et la Bonne Action, pour pouvoir donner en don ces produits-là. Et puis ces produits sont triés et ensuite c'est livré aux personnes qui sont chargées de venir chercher la marchandise. Et ils viennent tous les jours chez nous. La loi date de l'année dernière. Nous, Carrefour, ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille avec ces associations et que ce genre de conventions sont signées déjà avec les associations. Oui.
Si vous deviez compléter cette phrase d'un client, je préfère faire mes courses à Carrefour parce que, quelle image de marque lancée une Carrefour souhaite-t-elle qu'on retienne d'elle?
On peut dire pas mal de choses derrière cette phrase, mais bon, je dirais parce que je suis satisfait de la qualité des produits et du service proposés par l'enseigne Carrefour. On souhaite que le client ait confiance en la marque Carrefour, parce que Carrefour est une marque. Et on veut vraiment donner confiance à nos clients sur notre marque, sur notre enseigne et sur la qualité du service proposé.
À l'instant, Monsieur Bouraga, donc le chef de secteur alimentaire de Carrefour Liévin. On a une réaction sur Twitter de Señorita Ternel. Les achats imprévus qui ne sont pas sur la liste. Alors ça l'a bien fait rire. Alors Naufel, tu as demandé aux clients de ces magasins s'ils se sentaient influencés par la publicité. Voici leur réponse. Écoutez.
Non, pas du tout.
Non, aucunement.
Non, je les jette tous à la poubelle.
En fait, ça n'a pas forcément la publicité.
Non. Non.
Honnêtement, je me fie pas aux publicités pour acheter, quoi, je dirais.
Mes enfants, oui, moi, non.
Il y en a beaucoup, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a toujours une pub qui arrive, surtout en regardant des vidéos, qu'il y a une pub en plein milieu qui arrive, comme par exemple, hier, j'écoutais une berceuse avec le petit. Hop, en plein milieu d'une berceuse, il y a une pub qui arrive, le petit se réveille.
Bah, tout dépend. Si la pub, elle me plaît, souvent, c'est ça. C'est... Voilà.
C'est grave.
Bah ouais, j'y peux rien, écoute.
C'est superficiel. Oui, des fois, je viens même avec le catalogue où j'ai entouré. Oui, j'utilise le catalogue. Je regarde.
Bah non, c'est pas bien parce que ça pousse à la consommation que ça devrait être interdit même, je trouve. C'est un vaste problème.
Comme vous venez de l'entendre, 9 personnes sur 10 nous ont répondu
La pub, moi, jamais. Et pourtant, je peux vous dire que dans l'Arcadie, il y en avait des produits qu'on voit partout dans les pubs à la télé. Ça voudrait dire que la pub agit sur les consommateurs malgré eux ? Eh ben oui. Et pour ça, les pubs ont leur stratégie secrète. Mission numéro 1 des publicitaires, influencer les consommateurs pour gagner encore et toujours plus d'argent. Et pour ça, ils utilisent des phrases qui accrochent et qui vont vous accrocher. However you break, have a Kit Kat. Tu fais une pause, prends un Kit Kat. Mais pourquoi ça marche ? Parce qu'on vous donne un ordre et donc, en général, quand on vous donne un ordre, vous l'exécutez. Just do it. Histoire de bien vous faire comprendre que si vous ne le faites pas, eh ben, vous êtes un minable. Nespresso. What else? Nespresso. What else? Quoi d'autre? Ou plutôt, qui d'autre? Pourquoi George Clooney et pas moi? Voici la seconde stratégie des pubs. Ils utilisent des célébrités, car ils savent que les fans sont prêts à tout pour leur ressembler. Alors que si ça se trouve, George, il ne boit même pas de café. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Ah, ça fait mal quand vous entendez ce genre de pub sur la route pour aller au travail, qu'il pleut, qu'il y a des bouchons. La famille modèle. Un autre truc des publicitaires. Quand ils ne vous promettent pas carrément de rajeunir.
Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps.
Vous l'avez compris, dans le monde magique de la publicité, la vie est parfaite. Même qu'en fait, notre vie à nous, ça se trouve, c'est même pas la vraie.
La vie, la vraie, au champ.
Anès, les pubs, les grands magasins, ça n'évoque pas de très bons souvenirs pour toi, n'est-ce pas ?
Non. Quand je vais au magasin avec mes parents, je ne suis pas content, car c'est toujours pareil. On prend au moins 2 heures, et c'est long. Ils me préviennent toujours de ne pas m'éloigner, que cela va aller vite, qu'ils ne vont prendre que de la lessive. Mais devinez quoi, il n'y a jamais que de la lessive. Heureusement, je ne suis pas tout seul. J'ai une bande de copains, la bande des surgelés. Parce qu'on s'est rencontrés dans le rayon surgelé, un jour en cherchant nos parents. Un drôle d'endroit pour une rencontre. Depuis, on se rejoint tous les samedis à 14h30 dans notre repère, le rayon Bobon. Il n'y a jamais de grand. Quand il faut retrouver nos parents, on est sûr qu'ils se trouvent au rayon moins 70%. Dans notre bande, on a tous peur de ces rayons. C'est pire que la Deuxième Guerre mondiale. On voit notre propre parents en train de pleurer parce qu'ils nous ont loupé leur propre promo. Et après, il faut réussir à raisonner ses parents de ne pas se battre pour le dernier pack de Lactel. À la fin, ils prennent un pack de Kangeo et ils finissent par tout oublier. Une fois arrivés à la caisse, tous les parents se disputent pour savoir qui paye. Ils boudent et ils ont tellement honte qu'ils nous ramènent au rayon jouets et bonbons. Je consomme, tu consommes, ils consomment, nous sommes vraiment cons.
Merci Anès de nous avoir fait réviser la conjugaison du verbe consommer, une déclinaison que je ne connaissais pas d'ailleurs, hein. Je vais peut-être pas l'enseigner à mon fils non plus. Alors nous allons continuer cette fois à conjuguer le verbe consommer au passé, c'est le moment de la revue de texte avec Romy.
Eh oui Jean-Philippe, avec mon camarade Antoine, on s'est demandé si cette envie de consommer toujours plus était si récente que ça. Et c'est à travers des textes du 19 au 21e siècle que nous vous proposons de les découvrir. Commençons par un endroit, un paradis pour les femmes, au bonheur des dames, d'Émile Zola de 1883. Vous allez nous dire, au bonheur des dames, c'est quoi ? C'est tout simplement un récit dans lequel toute l'histoire gravite autour d'un grand magasin, le bonheur des dames, dirigé par Octave Mouret. Il avait mis en place une méthode révolutionnaire, qui consistait à faire le plus gros bénéfice et à conduire à la faillite tous les petits commerçants du quartier. Sa puissance ? La publicité. Bien sûr, ce n'était pas encore les publicités à la télé. Mouret en arrivait à dépenser par an 300 000 francs de catalogues, d'annonces et d'affiches. Pour sa mise en vente des nouveautés d'été, il avait lancé 200 000 catalogues, dont 50 000 à l'étranger, traduits dans toutes les langues. Maintenant, il les faisait illustrer de gravures, il les accompagnait même d'échantillons collés sur les feuilles. Il prophétisait que la femme est sans force contre la réclame.
Ces consommateurs robotisés se laissent de plus en plus influencer par les publicités dans les années 90. La publicité, c'est le sujet à la une pour Stenberg dans sa nouvelle Le Credo, extraite du recueil Histoire à dormir sans vous. Le personnage principal de cette nouvelle, un homme ordinaire, adore regarder les publicités. Jusqu'au jour où il décida de consommer toutes les marques qui promettaient de le rendre séduisant, meilleur, un autre, un must. Notre homme ordinaire devient alors un avaleur de pub. Il compte sur rasoir Gillette pour décrocher à perfection masculin, sur Savane, l'eau de toilette aux effluves sauvages qui doit attirer toutes les femmes, sur caleçon Jim, celui des mâles heureux. Notre homme crédule et aliéné par les slogans publicitaires pense être un autre.
Il reçoit des compliments de la part de ses collègues. Il rencontre même une femme dans un pub et la drague. Que va l'ordre de cette rencontre basée sur des slogans publicitaires et non sur des sentiments? Je vous invite à lire rapidement cette nouvelle de Stenberg, Le Credo, pour en découvrir la chute.
Stenberg dénonce l'impact de la publicité qui conditionne nos comportements sociaux et nous fait céder à la modernité en achetant des produits dont nous n'avons pas besoin. Je connais également un personnage, un vieux, qui lui a honte d'avoir cédé à cette modernité. Alex Duprel évoque ce regret dans la nouvelle « La honte du vieux », extraite du recueil « Le bleu qui fait mal aux yeux ». Le titre de la nouvelle dit tout. Le vieux était triste, il pensait au passé. À sa vie, il avait honte parfois. Il avait si honte qu'il lui arrivait de pleurer. Le vieux évoque sa jeunesse merveilleuse au bord du lagon, lieu où le poisson est en abondance. Un jour, il apprend à l'école que le poisson se conserve mieux au frigo. Ainsi, il commença à pêcher 20 poissons par jour pour acheter un frigo, pour mieux conserver le poisson. Mais quand il eut le frigo, il fallut le remplir. C'est pourquoi il pêcha encore plus de poissons. Commence alors un cercle vicieux. Et si vous me suivez, chers auditeurs, vous devinez ce qui arrive au lagon. Si vous souhaitez découvrir l'ensemble des regrets du vieux, précipitez-vous sur cette nouvelle. Elle sera peut-être le déclencheur qui modifiera votre comportement de consommateur.
Au cours des siècles, le comportement du consommateur ne semble pas avoir beaucoup évolué. Il est avide de consommation et comme dirait l'illustrateur Book, dans cette spirale de la consommation, le consommateur s'est fait avaler son pouvoir d'achat et s'est fait consommer par le démon de la consommation.
Merci Antoine et Romy. On a 3 tweets d'un coup quand même. Hein. Donc voilà, il va falloir que je les lise dans l'ordre. Margot qui nous tweet, la pub influence beaucoup. Également Brunel qui réagit, qui nous dit les célébrités ne m'influencent pas. Par contre, le chocolat, c'est une autre histoire. Et puis le tweet de Seniorita Eternelle. Merci Anès pour cette conjugaison. Voilà. Allez, tout de suite, bah tiens, voilà Lisa qui arrive.
Ah, quelle galère, je suis mal, je suis très mal.
Qu'est-ce qui se passe Lisa, ça va pas d'aller?
Non, j'ai encore eu une très mauvaise note à l'école. Pour me détendre, éviter la déprime, une seule solution, aller faire les magasins.
Bah voyons.
Mais sans rien acheter car en ce moment j'ai pas d'argent, c'est la S et je commence vraiment à être en manque. Je pars quand même vers mon magasin préféré, c'est simple, j'adore tout, carrément addict. Vite, je fouille, je prends les vêtements, je les regarde, je les remets à leur place, je refouille, et là, je vois une robe au loin, juste magnifique, ma chérie. Je m'approche, je tends mon bras, je retourne l'étiquette avec le prix, et là, c'est la cata, la méga cata. Cette robe, celle que je veux, elle n'est pas en promo. Non, je ne dois pas. Mais là, la petite voix dans ma tête qui me dit, allez, va l'essayer, juste pour le plaisir, et bam, devant le miroir, je me vois, waouh, je me trouve sublime. Non, mais ma mère va encore criser si je l'achète. Alors, je la remets en rayon. Puis, non, je la veux. Tant pis, je la prends et ça y est, j'ai encore craqué.
Et voilà, magnifique. Encore une victime de la consommation. Alors, Romy, tu t'es penchée sur ce problème et tu as rencontré Maxime Cavé, qui est assistant de service social au SSFE, le service social en faveur des élèves.
Maxime Cavé, bonjour. Si on en croit la chronique qu'on vient d'entendre, on pourrait presque penser que consommer rend heureux. Vous êtes d'accord avec cette idée?
Ça procure sur le moment un réel plaisir. C'est important de s'interroger sur pourquoi je consomme, pourquoi j'achète, et pourquoi ça me calme, pourquoi ça me fait du bien. Souvent, si on regarde un petit peu, on s'aperçoit que derrière, il y a un malaise, un mal-être, et que le fait d'acheter, c'est peut-être le moyen par lequel on peut essayer d'oublier une souffrance, on peut essayer de gérer un stress ou calmer une anxiété. Et une fois que cette tension est apaisée, eh bien, on peut avoir parfois ce sentiment de culpabilité, puisqu'à un moment donné, il y a toujours, je pense, un déficit au niveau de l'estime de soi, qui fait que quand on va pas bien, on va être plus facilement à consommer un produit, à acheter ou avoir des comportements parfois qui vont entraîner des addictions, parfois.
Alors justement, dans sa chronique, le choix du vocabulaire n'est pas anodin. Craquer, être en manque, être addict, on a l'impression que l'achat compulsif fonctionne comme une addiction. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est une addiction ?
Je dirais que c'est la perte de contrôle, le fait de ne pas pouvoir s'abstenir de consommer un produit, une substance, Le fait de parler d'addiction sans produit, comme les jeux vidéo ou comme les jeux d'argent, c'est un petit peu plus difficile à définir, encore plus quand on parle d'achat compulsif. En tout cas, effectivement, on peut parler de comportement problématique. Je ne sais pas si on peut parler d'addiction.
Si ce n'est pas une addiction, est-ce que consommer peut malgré tout devenir pathologique? Parce que dans la nouvelle d'Alex Duprel, La honte du vieux, le personnage du vieux dit quand même, après avoir dépensé tout son argent, pour acheter des choses dont on lui avait dit qu'elles étaient nécessaires, qu'il pleure de honte. Il est démoli.
C'est pas pathologique et c'est pas grave d'acheter un vêtement, d'acheter un produit. Ça devient, entre guillemets, problématique si je n'arrive pas à m'arrêter, si je mets en péril mon budget, si je suis obligé de dépenser beaucoup d'argent et qu'à un moment donné, j'en ai plus et que ça me met dans des situations de surendettement, que ça met en péril ma vie familiale, mon conjoint.
Le vieux finit d'ailleurs sa vie tout seul dans sa maison. Ses enfants ont dû partir.
On peut arriver à des situations très compliquées de mise sous tutelle, de procédures judiciaires parce qu'on n'arrive plus à rembourser. Là, ça devient problématique. Mais, encore une fois, consommer, en soi, ce n'est pas un problème. Hein. C'est la surconsommation qui peut devenir un problème.
Et c'est pire aujourd'hui, parce qu'avec Internet, on peut consommer sans sortir de chez soi.
Avec la dématérialisation, on peut acheter n'importe quand, n'importe où. Et c'est ce qui provoque aussi parfois quelques problèmes, puisque en un clic, on peut mettre dans un panier virtuel tout et n'importe quoi. Alors après, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'on est quand même dans une société d'hyper-consommation où on a constamment des messages destinés à nous faire consommer, à nous dire que l'on a besoin de telle ou telle chose. Donc ce qui procure un manque, un besoin chez nous. Donc on a besoin d'acheter, de consommer pour se sentir vivant, pour se sentir intégré au groupe, pour se sentir voilà, tout simplement, entre guillemets, normal.
Alors que peut-on faire, nous, à notre niveau, pour résister à cette énorme pression?
Peut-être consommer différemment. Pour être moins vulnérable face à ces informations, c'est d'être soi-même assez fort et assez bien dans ses baskets pour ne pas être tenté par cette société qui nous demande de consommer tout le temps, toujours, toujours plus, quoi. Nous dire qu'on a besoin de telle ou telle chose alors qu'on n'en a pas forcément besoin. On nous crée des besoins. Hein, et ça... On peut être en capacité de le comprendre si on décortique un petit peu l'information, si on arrive à prendre du recul aussi sur ce que la publicité nous donne. Hein. La publicité, ce n'est pas la vérité. C'est important, nous, en tant que consommateurs, qu'on soit des consommes acteurs, d'avoir un regard critique et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il vous est proposé.
Merci, Monsieur Cavé.
Vous êtes toujours dans l'émission L'heure des consommateurs avec le collège Marie Curie de Liévin. Allez, on va détendre un peu l'atmosphère avec la chronique Consommons en chanson de Marina, Flavie et Lorenzo.
Exactement, Jean-Philippe. Et sans transition, si je vous demande, comment Borisian faisait-il pour séduire les femmes dans les années 50?
Il leur écrivait des poèmes, je suppose?
Eh bien, pas du tout. Je vous propose d'écouter sa réponse en chanson.
Ah, Gudule, viens m'embrasser. Et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, un avion pour deux, et nous serons heureux.
Eh oui, visiblement, dans la complainte du progrès, pour séduire une fille, un frigidaire c'est beaucoup plus efficace qu'un poème. Mais aujourd'hui, Lorenzo, rassure-moi, tu ferais plus comme Boris Vian.
Ben non, bien sûr. D'ailleurs, écoute, je viens d'écrire un petit couplet. Tu vas me dire ce que tu en penses. Ah, Rose, viens m'embrasser et je te donnerai un bouquet de fleurs, une jolie robe, un iPhone et du Nike, du Chanel, du Guess, une voiture, une bague en diamant, un lit pour deux et nous serons heureux.
Ouais, ça peut marcher, mais à condition qu'elle soit plutôt du genre à penser comme Goldman.
Je prie les choses et les choses m'ont pris.
Non, mais Lorenzo, t'es vraiment sûr que lui acheter tous ces objets va combler sa vie? T'as pas peur qu'à force...
D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez,
bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires.
Non, 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 mais à la Souche, on n'a rien compris. Le bonheur, c'est d'acheter. Moi, sans marque, je me sens nue. Je veux de la marque et rien que de la marque. Je veux les dernières Adidas, l'iPhone, l'iPad.
Oh non, l'âme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé. Faut rentrer dans les farandales de ceux qui font le blé.
Et vous, chers auditeurs, en matière de consommation, vous sentez-vous plutôt mouton, comme dans J'accuse de 2016?
Ou plutôt une foule sentimentale qui ne demande qu'à exprimer ses émotions?
Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales.
Vous êtes toujours sur Radio Plus, deuxième partie de l'émission, l'heure des consommateurs. Avec nous, en plateau, deux invités. Audrey Marchand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice de Café Méléon, un café des enfants itinérant dans un drôle de bus.
Avec nous également, Jean Dubois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes horticulteur et gestionnaire du point de retrait lecourtcircuit.fr à Béthune. Tout d'abord, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci.
Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé des dérives de la société de consommation. De cette fièvre acheteuse qui nous menace tous. Des réactions à ce que vous venez d'entendre, Jean Dubois, peut-être?
Non, comme ça, on va pas. On va proposer nos autres solutions, mais on va pas réagir.
Alors, j'interviens parce qu'il y a un tweet de Bellamuse, je crois, de la prévention serait-elle pertinente?
Je pense que, en fait, la consommation, c'est aussi une question d'éducation, de la part des parents, de la part des enseignants. De la part des adultes envers les plus jeunes, en fait. Donc je pense que oui, on a un rôle à jouer pour éveiller les consciences. Si tant est que nous, en tant qu'adultes, on soit déjà éveillés, hein, évidemment.
Audrey Marchand, je crois que dans une première vie, vous avez travaillé dans l'événementiel et la communication. Des métiers très ancrés dans la société de consommation. Qu'est-ce qui a motivé ce virage dans votre carrière?
C'était devenu une inadéquation entre mes convictions personnelles et ce que je faisais au quotidien dans mon travail. Et au bout d'une dizaine d'années, il a fallu que je change de voie parce que c'était plus possible. J'étais plus en phase avec moi-même, en fait.
Café Méléon est un café un peu spécial. C'est pour les enfants et il est dans un bus. Un café itinérant, c'était une volonté au départ?
Non, à la base, la volonté, c'était de créer un café des enfants. Mais dont en fixe, comme il y en a plein en France, il y en a de plus en plus aussi dans la région. Donc on souhaitait être dans un local. Et comme on ne trouvait pas de local sur le Béthunois, on a cherché des alternatives. Et on avait commencé à être itinérant, mais sans véhicule, on va dire. Hein. On allait dans les salles des fêtes, des salles municipales, donc prêtées par la ville de Béthune. Et on trouvait vraiment intéressante cette idée d'aller au plus près des habitants, dans les quartiers, etc. Donc on a voulu continuer sur cette voie-là. Et puis l'idée du bus, elle est arrivée progressivement, en fait.
Sur le site, vous évoquez l'idée de consommation responsable. En deux mots, de quoi s'agit-il?
Pour moi, c'est vraiment consommer autrement. C'est prendre conscience de beaucoup de choses et puis se dire que on pourrait trouver des alternatives en fait à ce qu'on fait. Donc, c'est d'abord se questionner sur soi, sur ses pratiques, ensuite s'éveiller et puis ensuite agir.
Et pour vous, Pierre Dubois?
Moi, ma démarche, elle est un peu différente dans la mesure où on vient de la production, on est agriculteur, enfin horticulteur, et on s'est rendu compte que la fracture entre le monde agricole et le monde de la consommation était devenue énorme et qu'il fallait trouver une solution pour reconnecter les gens entre ce que les agriculteurs font, et ils le font bien la plupart du temps, et ce qui se passe, et que tout le monde se précipite pour acheter ce que les autres font ailleurs et moins bien. Donc c'est parti de ça. Et notre démarche en tant que producteur et la démarche qu'on a avec le court-circuit, elles sont nées de ce constat-là.
Alors, au Café Mélion, vous proposez des activités parents-enfants. Être éco-citoyen, ça s'apprend dès l'enfance, comme pas de bisphénol A dans les biberons.
Oui, ça s'apprend. Oui, dès l'enfance, il y a plein de choses à transmettre en fait. Au niveau de déjà tout ce qui est consommation alimentaire. Au sein du Café Méléon, on propose des produits bio, le plus souvent locaux ou issus du commerce équitable. Et puis tout ce qui est, on va dire, les goûters, etc., c'est fait maison. On n'achète pas des choses toutes faites. Et puis dans les activités, on pratique énormément le recyclage, la récupération. Dans le but de montrer aux familles qu'on peut faire des choses avec pas grand-chose ou avec ce qu'on aurait mis à la poubelle, en fait. Parce qu'on est aussi dans une démarche zéro déchet. De ce fait, c'est vrai qu'on essaye beaucoup de limiter nos déchets et puis de s'en servir pour faire des choses. Et puis après, on est aussi beaucoup sur des activités, on va dire, de... comment les qualifier ? De plus dans l'être, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans la production de quelque chose. On va travailler sur le bien-être, sur la gestion des émotions, sur la coopération... sur le jeu, voilà ce qu'on propose en très très court là, au Café Mélé.
Madame Marchand, vous faites aussi partie du mouvement des colibris lancé par Pierre Rabhi. Vous pouvez nous rappeler la légende du colibri ?
Alors oui, la légende des colibris, du colibri en fait, c'est on se trouve dans une forêt dans laquelle il y a un terrible incendie et tous les animaux de la forêt sont paniqués, ne savent pas quoi faire par rapport à cet incendie. Et le petit colibri, qui est un tout petit oiseau, se dit que il va essayer de faire quelque chose. Donc il va chercher avec son petit bec, il va chercher des gouttes d'eau à la rivière et puis il ramène inlassablement des gouttes d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Et il y a un animal qui lui dit colibri, qu'est-ce que tu fais? Tu t'imagines quand même pas que à toi tout seul tu vas réussir à éteindre l'incendie? Et le colibri lui répond: je sais, mais je fais ma part. Et en fait, cette démarche, en fait, c'est vraiment le fait de se dire que chacun, à notre petit niveau, on peut faire quelque chose. Et si tous on fait cette goutte de colibri, en fait, on peut réussir à faire changer les choses. C'est ne pas s'imaginer que y a rien à faire pour faire évoluer la société. Se dire que on a tous notre part à faire.
Alors, je reprends le micro. Voilà, on est obligé de se partager le micro dans les studios de Radio Plus. On est nombreux. Juste pour vous signaler, avant d'avoir une interview par téléphone, un nouvel invité, deux tweets. Le tweet de Bossard: nous sommes tous des foules sentimentales. Et puis un tweet de Brunel qui est entièrement d'accord sur les mails de réduction de commerce reçus chaque jour s'accumulent et force à consommer. J'ai déjà été tenté. Voilà, alors on nous dit en régie qu'il y a un problème de ligne téléphonique. Alors justement, une petite réaction par rapport à ces deux tweets.
Par rapport à la pub en général, oui, on entendait dans les reportages dans la première partie de l'émission que beaucoup de gens ne se sentaient pas impactés par la publicité. Je pense que la publicité, pour avoir travaillé dans la communication et être de l'autre côté, avoir été de l'autre côté, oui, c'est vraiment fait pour... jouer sur l'inconscient, en fait. Donc on se rend même pas compte qu'on est manipulé. Donc il y a des choses toutes simples, hein. On peut mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres pour éviter de recevoir les publicités papier. Et puis les mails sur internet, faut savoir aussi qu'on est un peu fliqué, suivi par nos clics sur internet. Donc soit on s'abonne plus ou moins consciemment à des newsletters et on en reçoit plein, soit on reçoit des pubs parce que avec les cookies on a été repéré sur tel ou tel site et puis du coup on va nous inciter à acheter telle ou telle chose, mais ça c'est on peut aussi faire, on peut se désabonner, on peut faire en sorte de faire envoyer tout ça dans les spams et de limiter les incitations en fait, si on se sent pas assez fort pour lutter tout seul contre ça.
Madame Marchand, merci. Jean Dubois, vous êtes gestionnaire du court-circuit.fr à Béthune. Le nom court-circuit intrigue. De quoi s'agit-il ? Rien à voir avec une interruption de courant, je suppose.
Non, du tout. C'est plutôt un jeu de mots avec les circuits courts qui sont effectivement plus en vogue depuis peu, parce qu'on en parle de plus en plus. Mais c'est vrai que les circuits courts ont toujours existé. C'est juste qu'on a oublié qu'ils existaient parce que la grande distribution a occupé tout l'espace. Et donc le circuit court, c'est une des solutions qui permet aux gens d'acheter des produits locaux.
Vous faites donc appel à des producteurs locaux. Local, c'est 1 km, 10 km. Et qui sont ces producteurs ? C'est vous qui les appelez ?
Alors, local, c'est le plus près possible avec une démarche on recherche, c'est moi qui ai recherché, enfin, c'est moi et mon épouse, en compagnie du court-circuit. On a recherché les producteurs qui étaient les plus proches de chez nous une démarche en colimaçon. C'est-à-dire qu'on a cherché le boulanger qui était dans la rue à côté. Hop. Et puis, on a pris les producteurs en cherchant par produit et par offre, puisqu'effectivement, il n'y a pas des producteurs à proximité dans le bassin de Béthune aussi proche. Donc, on est allé chercher des fois au plus loin. Pour certains, il n'y a pas de brasseur dans Béthune. On est allé chercher à côté d'Edin, par exemple, notre brasseur, mais le plus près possible.
Mais quels sont les produits que vous proposez ?
Alors, on a une très large gamme de produits qui est issue en grande majorité d'agriculteurs. Une partie est biologique. On a donc des légumes, des fruits, mais aussi des produits laitiers, de la viande, du pain. Enfin, énormément de tout ce que les agriculteurs et quelques artisans peuvent faire dans la région. Ça fait plus de 400 produits.
Voilà, eh bien, on va revenir vers vous juste après. En ligne, nous avons Arache de Rambarche, élu LR à Courbevoie. Bonjour.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Alors, la loi du 3 février 2016 est claire. En France, les grandes surfaces ne peuvent plus jeter leurs invendus consommables à la poubelle. Sinon, elles sont mises à l'amende à hauteur de 3 750 €. On a vu tout à l'heure qu'à l'hypermarché de Carrefour à Liévin, des conventions étaient déjà en place. Mais ce n'est pas le cas partout. Depuis mi-octobre, grâce à l'appli The Food Life, les associations peuvent connaître en temps réel les quantités disponibles de plus de 7000 supermarchés en France et donc récupérer les produits invendus. Vous avez été, vous, l'initiateur du service après-vente 2.0 de la loi, si on peut dire ça. On a dû vous poser la question 100 fois, mais qu'est-ce qui a déclenché la création de cette application ?
En réalité, moi je n'arrive pas en amont, cher monsieur, j'arrive j'arrive en amont. On a fait passer... D'abord, on a vu un problème. Moi, j'étais élu en mars 2014 à Courbevoie. Je suis allé voir Carrefour Market. Mais avant d'aller voir Carrefour Market, j'ai vu Monoprix et Franprix qui m'ont refusé la distribution. Donc, du coup, je suis allé voir Carrefour Market qui m'a autorisé pendant 2 mois. Ils m'ont autorisé à faire de la distribution immédiate. C'est-à-dire qu'on peut récupérer les invendus alimentaires à 20h. On récupérait les invendus. C'était l'équivalent de 50 kilos tous les soirs. Donc, l'équivalent de 500 €. Et on distribuait automatiquement à hauteur de 100 personnes. Une cinquantaine de personnes de la classe moyenne et une cinquantaine de SDF. Sauf que la distribution immédiate était interdite en France. C'était pas encadré légalement. On en a fait une pétition avec Mathieu Kassovitz et des centaines de milliers de bénévoles et de citoyens français. On a obtenu une loi au bout d'un an. La loi du 3 février 2016. Promulguée le 11 février. Dorénavant, depuis la promulgation du 11 février 2016 en France, n'importe quel citoyen peut créer sa propre association, obtenir une habilitation et réclamer les invendus alimentaires au supermarché de son choix. Et si le supermarché refuse, c'est 3 750 € d'amende. Ça va répondre à votre question, puisque c'est un droit opposable. C'est-à-dire que si une association vient réclamer les invendus alimentaires au supermarché, le supermarché est obligé de le donner, sinon c'est 3 750 € d'amende. Dans le cas contraire, si personne ne le réclame, les supermarchés continuent de faire ce qu'ils veulent. Et comme la loi a été votée, les citoyens m'ont dit, monsieur Darambarche, c'est très bien de faire la loi, mais derrière, quelle est l'application ? Donc on en a fait une application 2.0, une SAV 2.0, avec Marc Simoncini, qui permet en fait de répertorier, comme vous l'avez très bien dit, tous les supermarchés français, pour voir en fait quel supermarché est en partenariat avec quelle association, pour que les démunis le soir puissent aller manger à leur faim.
Alors, Arache de Rambarche, c'est parce que les Hauts-de-France sont le berceau historique de la grande distribution que le lancement de cette application a eu lieu dans notre région.
Vous avez très bien pointé du doigt le lancement de cette application. C'était le 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation et journée nationale contre le gaspillage alimentaire. Je suis allé voir Xavier Bertrand et on a vu également Régis de Jalques, qui est le président monde de Auchan. On leur a dit, voilà, on lance cette application, on voudrait le faire de façon symbolique chez vous, dans votre territoire. C'est un magnifique territoire, votre région. Je ne pointe pas du doigt que les choses qui marchent pas. Mais justement, c'est parce que justement votre territoire a cette histoire avec la grande distribution qu'il fallait le faire là-bas. Et puis la population des Hauts-de-France est une population exceptionnelle, extraordinaire, généreuse et fraternelle. Donc tout était lié pour qu'on puisse faire ce lancement là-bas.
Alors deux mois après son lancement, est-ce que vous avez déjà une idée de l'impact de The Food Life? Est-ce que vous envisagez par exemple des prolongements pour les invendus des restaurants ou des petits commerces ou même à l'étranger?
Alors votre question est extrêmement pertinente puisque j'ai laissé deux mois en fait à la grande distribution pour intégrer ces données. Et je savais très bien qu'ils allaient faire les choses de façon très lente. Donc du coup, je vous l'annonce, on va ouvrir la porte et les inscriptions aux associations. Parce que jusqu'à présent, seuls les supermarchés pouvaient intégrer les données. Dorénavant, à partir d'ici quelques jours, de quelques semaines, les associations pourront directement se connecter à l'application The Food Life et mettre directement leurs propres données et dire si elles sont en partenariat avec tel supermarché ou pas. Parce que les supermarchés ne mettent pas spontanément ces informations. Alors bien sûr, cette loi a été faite sur la grande distribution. Ça permet d'aider les gens qui ont faim et donc faire l'urgence. Mais il faut étendre cette loi. Il faut aller jusqu'au gaspillage alimentaire, notamment dans la restauration collective, restauration scolaire, les boulangeries, les maisons de retraite, les hôpitaux, les prisons. Donc si vous voulez, c'est tout un pan de notre société qu'il va falloir changer. Mais si je peux me permettre de vous le dire une chose. Sur la chaîne alimentaire, on a la production, il faut aider les agriculteurs au départ. Parce que ceux qui tiennent le système agroalimentaire, c'est d'abord la grande distribution qui a 80% du monopole de la distribution. Et c'est eux qui tiennent les prix. Donc si on n'aide pas la grande distribution à être beaucoup plus démocratique, on ne pourra pas en fait régler ce problème.
Eh bien, merci beaucoup, Derenmarche, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes élu LR donc à Courbevoie et que vous avez également, vous êtes à l'origine du lancement de cette application, donc The Food Life, qu'on trouve donc j'imagine sur l'ensemble des stores
Google Store. Play et Apple Store, absolument.
Très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Allez, tout de suite, on passe avant de retrouver eh bien la suite de notre programme. On a deux tweets à vous communiquer. Tweet de Brunel, le recyclage. Je ne fais que le strict minimum et si les grands commerces limitaient les emballages. Et puis, autre tweet également de Brunel. J'ai déjà testé deux fois le stop pub récupéré en mairie sur ma boîte aux lettres, mais ça ne tient pas avec la pluie. Voilà, oui, c'est vrai qu'il pleut beaucoup chez nous. Vos réactions au hashtag conso sur Radio Plus. On voudrait vous faire écouter à présent un petit extrait d'une interview que Neil Oskaglar, Toulouse, professeur de marketing à l'Université de Lille, de nous accorder il y a quelques jours.
C'est pas seulement le commerce équitable, d'ailleurs, vous avez aussi tous les réseaux, par exemple, de produits bio. Quand vous êtes consommateur de bio, si vous les interrogez, ils vont vous dire oui, ce que j'achète comme produit bio chez Carrefour n'a pas le même goût que les carottes bio que j'achète au magasin Biocoop. Mais n'empêche que ça fait augmenter le chiffre d'affaires des produits bio. Et du coup, ça permet aussi de changer des logiques de construction de prix. Donc ça devient beaucoup plus accessible pour plus de personnes. Alors, on peut dire de manière étonnante, la grande distribution permet quand même la démocratisation de ce type de produit. Ça permet de donner un accès à un plus grand nombre.
Retour sur le plateau avec nos invités. On vient de parler de la lutte anti-gaspillage. Une des solutions, c'est de consommer moins. Mais on ne peut pas s'arrêter totalement de consommer. Quelle piste peut-on proposer à nos auditeurs pour consommer autrement?
Alors, nous, on a une réponse qui est assez simple. C'est-à-dire que effectivement, les problèmes de suremballage, les problèmes liés aux grands groupes de distribution, on peut très bien prendre une autre voie, retrouver une logique assez simple, aller chercher les produits qui sont produits à proximité de chez vous, directement chez les agriculteurs locaux, pas uniquement en ligne, mais simplement. Enfin, en ligne, c'est une des solutions qui est compatible avec la vie moderne des gens, mais ça peut être très simple d'aller chercher directement les pommes de terre chez l'agriculteur du coin et la viande directement chez l'éleveur du coin aussi. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, ça peut se faire avec des moyens de maintenance, ça peut se faire avec du contact humain, ça crée de l'emploi et c'est vrai que ça n'a pas tous ces gros problèmes de suremballage et les autres dérives qu'on oppose souvent à la grande distribution.
Jean Dubois, comme pour tout produit, vous proposez un slogan afin d'inciter à la vente. Achetez chez votre voisin, c'est plus malin. Pouvez-vous nous expliquer votre slogan ?
Bah, c'est vraiment ce que je viens de dire. Enfin, c'est vraiment la logique d'acheter la viande qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est bien, mais on ne sait pas quelle est la viande ni la façon dont elle a été élevée. Et le coût de transport, même s'il est supportable dans le monde actuel, c'est quand même assez inimaginable de manger une viande qui vient de l'autre bout de la terre, alors qu'il y a des éleveurs à côté de chez vous qui ont du mal à vendre leur production. Et qui, le lait, c'est le même problème. On voit très, très régulièrement revenir à la une des infos la crise laitière avec des éleveurs qui sont incapables de vendre leur litre de lait, alors que vous, quand vous l'achetez en supermarché, vous le payez 2 à 3 fois plus cher que ce qu'il touche, ce qui est un petit peu le monde à l'envers.
Alors tout de suite, un autre extrait de l'interview de Neil Toulouse.
S'intéresser sur l'origine des produits, les conditions de production des produits. C'est important parce que c'est aussi comme ça que le monde peut changer. C'est une certitude. Aujourd'hui, on vit dans un monde basé quand même sur le marché. Donc, je pense que la seule chose qu'on peut effectivement faire, c'est de réfléchir 2 fois quand on achète un produit, si on en a vraiment besoin ou pas. Et 2, on parle beaucoup des 3 R en développement durable. On dit reuse, donc réutiliser, recycle, donc recycler, et puis
Alors justement, est-ce que vous connaissez, chers invités, le 3e R ?
Réduire, non ? Moi, je suis plus sur la démarche zéro déchet, c'est aussi des R.
C'est bien réduire, voilà, réduire ses déchets, ce qu'on consomme, etc. Et vous proposez, je cite, de faire rimer économie et écologie. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ces ateliers créatifs, ces ateliers du bonheur ?
Chez nous, on apprend beaucoup à faire par soi-même. On a vraiment le souhait de favoriser l'autonomie, en fait. C'est-à-dire que on se rend compte, quand on s'éveille un petit peu à tout ce qui est conso responsable, que pour beaucoup de choses, on achète du temps. C'est-à-dire qu'on se laisse dépendant, en fait, de l'industrie pour plein de choses. Donc on se réapproprie. L'idée, c'est de se réapproprier un petit peu ce qu'on est capable de faire. On travaille du coup beaucoup aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi, parce que on se rend compte qu'on est tous capables de faire beaucoup de choses. Donc ça passe par les produits d'entretien, les produits cosmétiques, la cuisine aussi, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui achètent des plats préparés, des choses comme ça, alors qu'on peut, évidemment, c'est beaucoup plus sain de faire soi-même. Alors certes, on vous dit oui, mais j'ai pas le temps. Alors moi, j'ai une devise qui m'est très personnelle, mais qui est: le temps, c'est comme l'argent, on en a pour ce qu'on veut bien. Alors moi, j'ai le temps de cuisiner, par contre, j'ai pas le temps d'aller faire du sport dans une salle de sport. J'ai les moyens de manger bio, par contre, j'ai pas les moyens de faire du shopping tous les samedis. Voilà, c'est juste une question de choix. Alors je dis ça, évidemment, c'est pas du tout dans l'idée de culpabiliser, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'assumer ses choix, et quand on se dit j'ai pas le temps, il faut se reposer la question de ce qu'on souhaite faire de son temps, en fait. Donc voilà, dans les façons de consommer autrement, il y a beaucoup faire soi-même, mais il y a plein d'autres choses, c'est aussi privilégier tout ce qui est durable ou jetable, c'est faire réparer plutôt que de jeter, c'est privilégier aussi tout ce qui va être les achats d'occasion, par exemple, plutôt que du neuf.
Et le retourne, je suis désolé, on arrive au terme de cette émission, merci beaucoup. Audrey Marchand, vous faites partie de Café Méléon, on vous retrouve sur cafeméléon.fr. Jean Dubois, merci beaucoup, vous êtes sur Béthune tous les mardis soirs et sur le court-circuit.fr. Un très grand merci à tous les invités en plateau et hors antenne qui ont accepté de répondre à nos questions, ainsi qu'aux auditeurs qui ont réagi sur Twitter. C'était une émission proposée par la classe média du collège Curie de Liévin.